Mon espoir s'est mis en érose, mon miroir en être morose, où je viens amer, lorgner mes pareils, vivre dans la boue en simple appareil. Loin du port, juste dans la vitrine, j'ai la porte pour ma doctrine. Honnissance qui jouissent en puriste, des eaux glaces des calculs égoïstes. Je sais évidemment, les torts sont dissociables, les enfants, les mamans se disent irresponsables. Mais si l'on s'attendrit, si l'on se laisse faire, et qu'on commence un tri entre ces mammifères, bientôt rien ne va plus, on tourne à l'humaniste. Et ce qui vous avait plu, soudainement vous attriste. Halte aux doutes corrupteurs, je me fais Robespierre, ordonnant à mon cœur de s'égaler aux pierres. Mon objet, c'est la fin du monde. Mon projet peut paraître immonde, mais c'est parce que j'ai aimé cette planète qu'aujourd'hui j'écris cette chansonnette. Mon amour a perdu courage, mon humour s'est changé en rage. Comme dit Marguerite Duras, en expert, ce monde est pourri qu'il aille à sa perte.
Et bien le bonsoir, monsieur Edmond, bien le bonsoir, madame Ginette, que nous retrouvons dès le début d'émission. C'est l'émission « Je m'ennuie bien » qui commence.
Vous avez dératé, oui. Madame Henriette, il y a un problème ?
Non, il n'y en a aucun.
Il faut faire un reset ?
Mais en fait, je m'attendais à ce que chacun de vous deux me réponde.
Mais non, d'habitude, vous faites votre petit speech d'entrée.
Et donc, j'ai vécu une espèce de moment de solitude radiophonique, mais comme ça, c'est fait. Voilà, donc « Je m'ennuie bien », une émission extrêmement bien préparée, on va dire au millimètre. Et durant laquelle nous n'allons vous raconter évidemment que des choses sérieuses avérées, voire d'une rigueur scientifique absolument.
Merci. Donc, voilà. Non, mais Madame Henriette ne trouve plus ses mots. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive.
Voilà, je suis troublée.
Non, mais d'habitude, il ne faut pas parler à votre place. Et là, il faudrait qu'on vous interrompasse.
Il lui fallut.
Il lui fallut, très bien. Allez, c'est « Je m'ennuie bien » qui commence. Pas de Monsieur Kogan cette semaine. Il a préféré aller travailler, je ne sais pas pourquoi, quelle drôle d'idée.
Les gens de nos jours.
Encore un qui veut travailler plus pour palper plus.
Oh, je pense qu'il serait ravi de cette description de son caractère.
Ça lui ressemble tellement.
Allez, bah écoutez, on va commencer. J'ai continué mon exploration de la presse féminine.
Est-ce que, alors, une petite question en préambule. Comptez-vous nous infliger ça toute l'année ? Parce que si c'est le cas, je vais acheter au moins du tilleul et de la camomille.
Non.
J'avais une autre question qui était pourquoi ?
Non, mais alors, figurez-vous que vous êtes médisante. D'abord, je ne sais pas combien de temps je vais faire ça. Mais en plus...
Le temps que vous surviviez.
Non, mais je suis tombée par hasard sur un magazine féminin qui racontait moins de conneries que d'habitude et qui avait même, je trouvais, un ton assez intéressant.
On veut des noms.
C'est Cosette.
Oh ouais, bah facile. Bah.
Mais c'est pas de la presse féminine ?
Oui, non, mais c'est de la presse... D'abord, c'est un peu de la presse féministe, plus que féminine. Je vois Madame Ginette qui acquiesce. Et voilà.
Je ne connaissais pas, et je dois avouer que je suis agréablement surpris. Alors... Bon, il y a quand même des petits travers faciles de la presse style PQR, les titres des fois un peu pourris. Mais on trouve quand même ce petit ton ironique. Par exemple, dans la rubrique plastique pas chic, on apprend que notre président bien-aimé qui dénonçait le fléau du plastique, qui disait en s'emportant qu'il fallait mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable de la production et de la consommation de plastique.
C'est folie. Oui, pardon.
Eh bien, Le Monde a dévoilé ces derniers jours que pas moins de 130 000 barquettes de cuisson en plastique, 5 000 rouleaux de film alimentaire en plastique, 72 000 sacs de cuisson sous vide en plastique et 5 000 pochettes de congélation en plastique avaient été commandées par un établissement qui s'appelle l'Élysée, dans laquelle vit notre bien-aimé président. Voilà. Donc, visiblement, il oublie de donner l'exemple.
Par contre, il n'est pas aussi stressé que moi sur les contenants alimentaires. Hein.
Non, visiblement, il aime bien manger du plastique. Les microparticules, c'est peut-être pour ça que...
Mais vous êtes mignon. Quand il y a des restes et que les invités ils repartent avec un doggy bag, il faut bien trouver des trucs.
Oui, il y a le verre qui existe, Madame Ginette.
Mais je sais bien.
Ah oui, vous pensez... Ah oui, non, il ne voulait pas. Non, mais vous croyez qu'on peut partir quand on va bouffer à l'Élysée, qu'on a laissé des trucs, qu'on peut demander un doggy bag ?
Mais bien sûr.
J'espère.
Faudrait que j'essaie. Je vais essayer de me faire inviter par Monsieur Macron, je vous dirai. Non, j'ai rien touché, mais je veux bien tout emmener.
Vous n'en prenez pas le chemin, mais enfin bon, il va falloir mettre les bouchées doubles.
Alors un autre, parce qu'au début quand même, c'est des petites brèves comme ça, et vous allez voir qu'après, il y a des articles vraiment longs et de fond. Ce qu'on ne trouve plus dans l'autre presse magazine.
Ah si. Dans l'autre presse magazine, on trouve des articles de fond, mais vraiment le fond
de teint,
quoi.
Vous voulez dire.
Ah, le très fond.
Tandis que là, voilà, vous avez même des articles, des reportages sur plusieurs pages. On va y venir. Alors avant, je voulais quand même, parce que j'étais passé au travers de cette annonce, mais peut-être Madame Ginette, qui fait souvent le tour du monde, l'avait vue. C'était la dernière campagne en juillet dernier du roi du fast-food. Je ne sais même pas si c'est le roi du fast-food. En tout cas, Subway. La marque Subway avait lancé, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Une campagne ?
Oui, mais alors, faudrait montrer qu'elle est vraiment débile, celle-là.
Et donc, ça s'appelle la publicité, alors c'est le mot que vous cherchiez.
Voilà. Et dans Cosette, elle nous dit une campagne, une initiative bien capitaliste et qui élève le niveau. Alors ça s'appelle le Name Change Challenge. Ouais. Donc Subway offre des sandwichs à vie à toute personne qui change son nom pour s'appeler Subway. Alors, l'article nous dit, et c'est Emeline Audi qui l'a écrit, ce petit article, que le plus déprimant, c'est qu'en 4 jours, 10 000 personnes ont répondu présent et que donc Subway finance les frais juridiques et les coûts de traitement pour accélérer la procédure de changement de nom de ces gens.
Mais changement de nom, genre à l'état civil en vrai, toi ?
Oui, c'est ça. Il faut que vous montriez après que vous appelez plus Paul, mais Subway.
Mais non.
Ben oui, les...
Madame Mariette la s'envoie.
L'humanité est malade.
Elle souffre, oui.
Tout ça pour bouffer du sandwich qui sont même pas très bons. Mais enfin bon, on va rien dire. C'est comme ça. Alors après, Madame Ariette, effectivement, l'a dit, Cosette, c'est plus féministe que féministe. Non, comment vous avez dit ?
N'importe quoi, Monsieur Edmond. On vous a perdu.
Vous avez dit c'est un journal ?
C'est plus un magazine. C'est plus de la presse féministe que féminine.
Ah voilà, c'est ça, féministe que féminine, pardon. Et donc, ils ont une rubrique, la badass du mois. Et cette semaine, c'était intéressant puisqu'il s'agissait d'Hélène Dorion. Est-ce que vous savez qui est Hélène Dorion ?
J'ignore tout d'Hélène Dorion.
Eh bien, peut-être vous pourrez aller regarder, Madame Henriette. Elle est née au Québec. Elle a maintenant 65 ans, autrice. Elle a longtemps vécu dans les Laurentides. En 2019, elle a eu le Goncourt québécois. Et le jury avait dit, par la modernité de ses écrits, leur sagesse et leur intégrité, l'écrivaine jette un regard sur les défis que rencontre le monde actuel. Et donc c'est l'une des seules poétesses vivantes, et c'est même la seule, à avoir jamais été inscrite au programme du bac de français. Et oui, son recueil « Mes forêts » fait donc partie des recueils, des livres que peuvent choisir les professeurs de français et mettre sur la liste de leurs élèves pour qu'ils passent.
Mais de français donc, au Québec ou
En France. D'accord. Donc c'est une première.
Ah, mais il y a toujours un baccalauréat ?
Ouais, visiblement, il faut encore des trucs en français au moins, même si le reste, après, ils ont un peu tout arrêté.
Avec des poésies, tout ça.
Des poésies, des romans, des Stendhal, des horreurs comme ça, toujours des dissertations. Un oral, oh là là, mais c'est horrible. Et donc cette année, trois autrices seulement, donc Hélène Dorion, Olympe de Gouges et Colette sont au programme. Et Cosette remarque qu'en 2016, eh bien, il y avait même eu une pétition puisqu'il n'y avait eu aucune femme cette année-là au programme de français. Comme s'il n'y avait aucune autrice valable. Voilà.
Alors moi qui suis très 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 vieille... j'ai pas souvenir d'avoir eu une seule femme dans les auteurs étudiés pour le bac.
D'accord. Mais il faudra regarder, Madame Mariette. Vous chercherez en votre année, je sais pas, dans les années 60, qu'est-ce qu'il y avait au programme.
Vous êtes si drôle, Monsieur Edmond.
Alors moi qui suis très très vieille aussi, au bac de français, à l'oral, je suis tombée sur un extrait de L'Amant.
Ah, c'est pas de chance quand même.
Ouais. Voilà, alors oui, c'est une autrice, mais...
Oui, voilà, c'est ça. On a dit oui pour des autrices, mais pas toutes quand même.
Voilà, c'est ça.
Assez dur.
Un peu, oui.
Oui, c'est surtout que dire.
Alors, une petite citation d'Hélène Dorion qui avait été interviewée par Télérama. toute ma vie, dans tout ce que j'ai fait, photographie, concerts littéraires, textes de chansons, livrets d'opéra, j'ai essayé de créer des passerelles, pour que la poésie rejoigne les gens. Et là, soudain, on m'offre l'occasion de montrer aux lycéens que la poésie est aussi faite par des femmes et par des vivants. Et la possibilité de dire aux élèves qu'ils peuvent en lire et en écrire à leur tour.
Oui, après, c'est vrai que c'est assez récent, les femmes dans la poésie, comme dirait Louise Labbé.
Oui, ou Sapho.
Oui.
Ah oui, alors Sapho, effectivement, ça remonte. Et puis elle avait eu beaucoup de problèmes en étant poète. Mais... Oui, mais là, c'était pour dire vivante. C'était bien. C'est vrai qu'on étudie souvent au lycée des auteurs morts pour leur dire que non, il y a encore des poètes aujourd'hui. Vous voyez pas.
Ce qui est vrai.
Si, moi, je vois l'intérêt d'étudier des auteurs morts, mais c'est très personnel.
Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup de reportages. Et il y a un reportage très long qui a été fait en Suisse, Veille avec les loups. Et donc, pour protéger les troupeaux dans les zones d'estive, on fait appel à des bénévoles. Et donc, il y a tout un reportage. J'imagine que la journaliste ou le journaliste, je vais vous trouver le nom, Michel, donc la journaliste, c'est peut-être que des journalistes d'ailleurs à Cosette. La journaliste est peut-être bien allée passer...
Monsieur Edmond, ce nom n'a ni féminin ni masculin, en fait.
Mais je le vois écrit, donc je vois qu'il y a un
c'est
E.
C'est peut-être que des journalistes à Cosette. Oui, probablement.
Ah bon ?
Il y a peu de chances qu'il y ait des plombiers.
Non, mais des journalistes féminins. Des journalistes...
On devrait pas du tout faire cette émission en fin de journée. C'est pas du tout l'horaire. À votre âge, vous tenez plus. À cette heure-ci, à l'EHPAD, on est au lit depuis très longtemps.
Non, là, on mange. On vient de finir de manger, là. On vient de finir de manger la purée.
Ah oui, oh, vous êtes dans un EHPAD un peu New Age, quoi.
D'ailleurs, on appelle ça plutôt le mixé, parce qu'on mixe tout, même la tarte au citron, donc tout est mixé. On met tout ensemble, on mixe, ça va plus vite. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs depuis qu'ils ont interdit les pailles. Bon, ben allez. Alors, c'est oppressant de passer la nuit à la montagne, évidemment, dans le noir, et de sentir qu'éventuellement un animal rôde. Donc, témoignage de Sophia. On a également Amélia qui a fait un autre témoignage. Alors, il faut savoir que l'estive, je crois, elle est quand même à 1400 mètres d'altitude. Donc, la nuit, il peut faire frais, même si c'est en été.
Ça pince.
On avait hyper froid. Ça pesait sur le moral de sortir du sac pour aller faire une ronde. Eh oui, c'est ça. C'est la dure vie du bénévole.
Oui, mais la ronde, c'est sympa.
N'est-ce pas ? Alors, pourquoi des veilleurs et tout ça ? Donc, le reportage est assez long et détaille bien la situation. Donc, évidemment, pourquoi ces jeunes sont allés aider l'éleveur ? C'est parce qu'en fait, l'accumulation de travail devient tellement lourde, à force, toutes les nuits, d'essayer de surveiller que ces bêtes ne se fassent pas bouffer pour un loup, qu'ils ont trouvé l'éleveur dans un état tellement pitoyable qu'ils ont eu de la peine, les jeunes, quand ils sont arrivés. Le mec, visiblement, lui aussi, ne tenait presque plus debout. Vous voyez, il n'aurait pas pu faire une émission de radio.
Si, regardez la preuve.
Donc, première
ça
mission...
Ça se fait quand même.
S'assurer que les batteries sont chargées. La lampe d'effarouchement, les toquis, les jumelles thermiques. Enfin, vous voyez, tout est prévu, tout est prêt. Et après, on fait un premier repérage pour, évidemment, ne pas tomber dans un trou plus tard. Et évidemment, donc, on rencontre l'éleveur. Donc là, il s'agissait de Kim Bernet. Et donc, dans un état, visiblement, il ressemblait plus à un zombie qu'autre chose, qui leur a dit « Sachez que ça m'aide à dormir de savoir que vous êtes là ».
C'est alors, même ça lui permet de dormir.
Ouais, voilà, c'est ça.
Vous imaginez la difficulté du gars à qui on demande de rester éveillé toute la nuit pour surveiller son troupeau et de toute la nuit compter ses moutons.
Ouais. Non, mais là, lui, il a des Highlands, donc c'est plus facile à compter.
Oui, effectivement.
Mais bon, faut voir que les loups, ça leur fait pas peur, une Highland.
Une Highland ?
Ouais. Ça a le poil long, mais visiblement, c'est...
Ils aiment le sport, quand même. Hein.
Et alors, du coup, justement...
ça n'a pas que le poil long, ça a la corne longue aussi.
Je vais faire un petit aparté, parce que je sais que Madame Henriette aime bien les vaches. Et donc, il est en train d'étudier la possibilité d'avoir une vache plus résistante au loup, plus coriace, la limousine. Donc, il est en train de regarder ça.
Il y en a d'autres. Hein,
ouais, mais bon,
qui,
visiblement,
qui
lui...
être un peu...
Parce qu'apparemment, elles sont bien costaudes déjà.
La salaire, je pense, ça doit courir, ça aussi.
Ouais. Mais bon, après, ça dépend ce que vous faites comme élevage, parce que la salaire, c'est pas propice à tout. Quoi.
Sinon, ils leur mettent des armures en métal.
Ouais.
Pas bête.
Et alors, pour le mouton, malheureusement...
Où ils passent toute la nuit de la musique pour jeunes.
Oh, bravo,
mais
madame
Henriette. C'est... J'ai pas cité de nom, ok ? Bon. C'est dommageable.
Mais ça manque. Allez-y, citez un nom.
C'est peut-être dommageable pour les grossesses des vaches, par contre.
Donc, le loup, ben, faut quand même parler du loup un petit peu. C'est une espèce protégée en Europe depuis la Convention de Berne, madame Henriette, en...
Je l'ignore, mais c'est forcément récent.
1979.
Oui, parce que bon, début 20e, c'était pas tellement protégé, le loup.
Et donc, le loup est réapparu en Suisse en 1995. Et aujourd'hui, ils estiment que le pays compte 250 loups répartis en 26 meutes. Mais bon, il faut savoir que le taux d'accroissement, c'est de 20 à 30% par an. Donc, ça va quand même assez vite.
Oui, mais ça doit être bien réparti et bien ordonné. C'est la Suisse quand même.
Oui, mais ça mange quand même, puisque l'année dernière, il y a quand même 1400 animaux de rente qui ont été bouffés par les loups en Suisse. Hein.
Alors, bouffés peut-être ou poussés dans des précipices, parce que c'est aussi...
En tout cas, tués par les loups. Donc,
l'autre effet qui se coule quand même, c'est que c'est pas hyper bon pour la santé des animaux d'être pourchassés.
Eh oui. Donc, après sa nuit là-haut, Sophia, qui s'était inscrite pour faire la veille et qui était clairement là pour protéger les loups avant tout, puisqu'évidemment, ça sert aux deux hein, de protéger le troupeau, on protège les loups en même temps. Et elle s'est rendue compte après que vraiment, c'était plus compliqué que ça, l'histoire. Hein, que c'était pas le tout de dire on va remettre des loups partout et tout va aller mieux. Donc, bon, elle est un peu plus dubitative. On a Véronique Marmet, 54 ans, montagnarde chevronnée, qui a déjà fait une dizaine de veillées là-bas pour l'association qui s'appelle Opal. O-P-A-L, pour ceux qui seraient intéressés. D'aller dans le Jura ou dans les Alpes suisses, donc faire des veilles.
Faut pas être frileux, manifestement.
Non. Alors, elle se souvient d'une nuit où elle a vu, à la taille de ses poils, je l'ai pris pour un chien, nous dit-elle. Mais c'était bien un loup. Il est passé à 20 mètres derrière nous. Il ne nous a pas sentis à cause du vent. J'avais la lampe, les jumelles, et j'ai essayé de filmer. Mais avec mes gants, je n'ai pas réussi. Et ouais, dommage.
Quelle
dommage.
Tristesse.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Eh bien, rien, ils se lèvent, ils font du bruit, et en général, le loup s'en va. Voilà, voilà. Alors, on avait Fabienne Siliki, 52 ans, qui est carrément organisée. Elle a toujours ses jumelles, sa lampe, sa caméra à portée. Et donc, ce qu'elle fait, en général, avant de filmer, elle allume sa lampe frontale pour signaler au troupeau qu'elle est là, que tout va bien, et que ça va aller. Et après, elle pousse deux cris fermes. Et là, le loup... Parce qu'elle dit qu'il ne faut pas crier trop fort, parce que le problème, c'est que si vous effrayez le troupeau, eh ben, dans la nuit, le troupeau, il part, et puis des fois, eh ben, voilà.
Oui, alors elle,
c'est contre-productif.
Voilà. Elle montre d'abord au troupeau qu'elle est là, comme ça, les vaches, elles peuvent dire « Ah oui, c'est l'autre chelou, c'est bon, t'inquiète pas.
» Exactement, voilà. Donc, eh ben, au bout de 7 heures, on vous libère. Hein, vous avez passé la nuit à vous cailler et, voilà, et à faire des rondes.
D'accord. Et à courir
5 jours
derrière
de suite. 5 jours de suite, voilà. Et vous signez, et puis voilà.
5 jours, ah ouais, 5 nuits donc.
Ouais, 5 nuits.
Ça doit être long quand même.
Ah bah, il faut aimer la nature et les loups. Allez, je vous parle juste d'un dernier élément. Donc, dans Cosette, non, il y a deux trucs encore que je voulais parler. Alors, on va peut-être, vous voulez faire une petite pause musicale ou on enchaîne ?
Mais non, allez-y, vous êtes lancé.
Alors, c'est un livre dont j'ai entendu parler dans plusieurs magazines et pas seulement dans des magazines féminins. Donc, peut-être ça pourrait vous intéresser, Madame Mariette ou même Madame Ginette. Peut-être vous en avez déjà entendu parler d'ailleurs. C'est un essai et ça s'appelle « Mangeuse » par Lorraine Malka. C'est une journaliste de Cosette, justement, une collaboratrice régulière. Et donc là, elle s'est intéressée donc à la façon dont est représentée la femme et la nourriture. Et donc, en fait, elle a eu l'idée d'écrire ce livre parce qu'elle avait lu une enquête américaine qui est... Qu'est-ce qu'il y a, madame?
Non, non, je vous écoute. Je trouve que ça part bizarre, mais ça va peut-être arriver tout droit. Impec. Allez-y.
Et donc elle avait,
on
elle
peut
avait...
même après un saut très périlleux, on peut tout à fait atterrir sur ses pieds. Allez-y.
Alors je vais vous lire le sous-titre tout de suite, peut-être ça va vous... Mangeuse, point. Histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès.
Ah, c'est le rapport des femmes à la nourriture,
alors. Absolument.
Ok.
Et donc tout est parti d'une enquête que donc Lorraine Malka avait lue, une enquête américaine, qui affirmait que la peur de grossir dépassait chez les jeunes femmes celle de développer un cancer du sein, de voir se déclencher une guerre nucléaire ou de perdre ses deux parents.
Alors, excusez-moi, mais certes, l'enjeu n'est pas le même, mais la probabilité, pour le coup, au niveau de la probabilité, elles ont raison. Il y a quand même vachement plus de chances de grossir aux États-Unis que...
Qu'il y ait une guerre nucléaire.
Qu'il y ait une guerre nucléaire.
Un cancer du sein, je ne sais pas, hein.
Ah ben, cancer du sein. Non, c'est quand même... Non, non. Si vous regardez statistiquement, aux États-Unis en tout cas, non, quand même. Non, c'est pas... Voilà.
Donc vous pensez que c'est pour ça, c'est juste un
rapport
probabilité.
Alors après, on est d'accord que l'enjeu n'est pas le même. Voilà, le résultat n'est pas le même.
Bon, mais en tout cas, elle partait juste en fait de cette étude. Et elle s'est dit, tiens, je vais regarder. Et évidemment que bon, ben, c'est une culpabilité qu'elle va montrer dans son ouvrage. L'un de ses angles d'attaque, c'est que c'est une culpabilité séculaire. Et d'ailleurs, ça commence évidemment avec Ève qui, son péché, c'est de croquer une pomme quand même hein, au départ.
Ouais, alors
et ça mène au désastre.
Le surpoids n'est pas tellement stigmatisé avant notre époque hein.
Alors, je ne sais pas, il faudrait lire le livre.
Le sous-poids est davantage, en tout cas dans les romans du 19e siècle.
Alors, elle ne parle pas que du surpoids.
Le sous-poids est
davantage... Elle parle beaucoup au début du péché de gourmandise qui était reproché aux femmes.
Ah oui, mais si les femmes commencent à s'autoriser des trucs,
exactement.
On n'en sort plus.
Mais c'est exactement ça, Madame Ariette. C'était lié au fait que...
Mais c'est exactement ça.
C'est leur interdire, leur dire, ah ben non, si t'es une gourmande, c'est que t'es une mauvaise femme, etc. etc.
Monsieur Edmond découvre le patriarcat.
Absolument.
Il n'est jamais trop tard.
Je découvre Cosette et le patriarcat, c'est normal, ils en parlent beaucoup. Et donc, elle parle de Pandore également, qui était montrée comme une affamée, une insatiable... Elle parle de tout un tas de choses. Bon, vous regarderez. J'ai juste noté également que dans les années 1920-1930, où il y a eu quand même un grand mouvement féministe, eh bien, figurez-vous... Oui, eh bien, figurez-vous...
Ah oui, un peu, oui. Puis c'était musclé, hein.
Figurez-vous que la minceur faisait partie de leur doctrine pour une raison toute simple. C'était l'idée de débarrasser son corps des rondeurs, qui étaient des marqueurs de la féminité, d'avoir un corps plus athlétique et plus à l'activité et au travail, pour dire on va faire comme les hommes, on va aller bosser à l'usine.
Et alors, dans la réalité des féministes de cette époque, est plus apte aussi à se latter avec les forces de l'ordre, puisqu'en fait, c'était les forces de l'ordre n'hésitaient absolument pas à frapper les femmes. Et donc, il y avait même des cours de combat pour les féministes, pour qu'elles ne se fassent pas éclater la tronche sans rien pouvoir faire. Voilà.
Et donc, elle poursuit son étude en disant que malheureusement, plus tard, ce mouvement et cet élan de minceur a été récupéré par le capitalisme et la société de consommation qui en a fait une quête de la minceur qui était émancipatrice en une injonction et une tyrannie de la maigreur. Et donc, apparemment, c'est très documenté par Suzanne Faludi dans un livre, alors je ne sais pas s'il est en français, s'il est disponible en français, qui s'appelle Backlash. Backlash, comment vous diriez, Madame Ginette ?
À peu près comme ça, Backlash.
Voilà, c'est quand en fait on retourne, hein, ça se retourne contre vous, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Et donc,
c'est le retour de manivelle en langage motard.
Ah si, il a dû être traduit en français, je vois, La guerre froide contre les femmes, donc de Suzanne Faludi, qui était paru en 1993, mais j'imagine qu'on doit pouvoir encore trouver.
Bah, oui. Quand même, oui.
C'est ce qu'il y a de bien avec le patriarcat, je trouve, c'est que lui, au moins, il retombe toujours sur ses pattes, encore plus souvent que les chats. Et après avoir obligé les femmes à n'être que des mères, donc avec des mères ou avoir des appâts sexuels très très proéminents, il s'est dit que c'était bien aussi des femmes qui finalement disparaissaient de l'espace et donc existaient de moins en moins, prenaient de moins en moins de place. C'était bien aussi et ça pouvait être aussi une logique patriarcale. Et moi, je trouve que cette capacité d'adaptation, c'est pas inintéressant.
Donc, c'est donc Mangeuse de Lorraine Malka et voilà, c'est aux éditions Les Pérégrines, 290 pages, 20 euros. En tout cas, l'interview est assez intéressante et ça donne assez envie de lire ce livre. De voir cette approche. Et Madame Henriette, qui est spécialiste de la Corée, nous dira que le rapport à la nourriture en Corée est très différent, notamment par rapport aux femmes. En tout cas, telle qu'elle est présentée dans les dramas.
C'est complètement hypocrite, puisqu'en fait, les femmes sont toujours trop grosses et jamais assez minces. Mais par contre,
il est recommandé.
Alors, c'est même pas recommandé.
Il est souhaitable.
C'est que l'injonction... c'est qu'elles ne doivent pas elles doivent beaucoup manger, en fait. Parce qu'une femme qui mange beaucoup, c'est charmant. Mais elle doit beaucoup manger et être très, 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 très mince, puisque le poids limite pour une Coréenne, quelle que soit sa taille, c'est 50 kilos. Si on dépasse 50 kilos, même si on fait 1m75, on est grosse.
Et alors, bon, j'ai vu quelques dramas coréens.
Alors, ce que je vous dis, c'est quand même très caricatural. Et heureusement, cette société-là évolue et change à la vitesse grand V. Et c'est très bien parce qu'il y a des mouvements féministes qui sont extrêmement vivants et extrêmement intelligents et qui battent en brèche ce genre d'idées un peu débiles quand même, hein.
De beaucoup manger tout en restant maigre, oui, c'est compliqué.
C'est-à-dire que stigmatiser quelqu'un parce qu'elle est au régime tout en lui disant qu'elle ne doit jamais dépasser 50 kilos, excusez-moi, mais ça s'appelle un peu une injonction intenable. Et pour rendre les gens cinglés, il n'y a pas mieux quand même que les injonctions intenables. Donc voilà, faisons quand même confiance aux Coréennes en général et aux féministes coréennes en particulier pour faire changer ça très vite. Et peut-être, et j'espère même que ce que je viens de dire est déjà de l'histoire.
En tout cas, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, à l'image, ils mettent souvent effectivement des femmes qui mangent beaucoup, ce que, à mon avis, on retrouve très peu dans le cinéma européen. D'abord,
parce qu'en fait, ça fait partie ça fait partie de l'attirail, de la panoplie, voilà, du garçon amoureux, de regarder son aimé manger. A priori,
Oui, puis ils ont beaucoup de gestes où ils partagent la nourriture, ils se donnent à manger.
Là, par contre,
il y a une espèce de truc autour de la nourriture qu'on n'a plus, nous, en tout cas.
Ben, on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, mais on est dans des codes... Alors là, pour le coup, c'est vraiment dans la culture coréenne qui, comme beaucoup d'autres pays, il n'y a absolument aucune spécificité là-dessus, qui est un pays qui, encore très récemment, a souffert de la faim. Donc, un pays qui, très récemment, a souffert de la faim et qui... se retrouve à manger à sa faim et même dans une situation d'abondance et de diversité jamais connue auparavant, évidemment, la nourriture a une dimension hyper importante. Et donc, une dimension hyper importante entre parents et enfants, entre collègues. Il est tout à fait admis, mais même plus qu'admis, il est tout
bienvenue.
Bienvenue, voilà, apprécié d'offrir de la nourriture. Nous, c'est vrai que ça se fait peut-être de moins en moins d'offrir de la nourriture.
Non, mais Madame Henriette, moi, j'ai jamais vu ça, un repas, à part entre des gens qui se connaissent très bien, éventuellement de se donner quelque chose.
Non, mais
sinon, ça vous viendrait pas à l'idée d'aller mettre quelque chose dans l'assiette de quelqu'un d'autre.
Vous voulez être apprécié de vos collègues, vous leur amenez de la nourriture, vous amenez des sandwichs.
Oui, mais ça se fait, ça d'amener quelque chose à manger.
C'est quand même complètement fou. D'amener à manger. Oui, ben, enfin, faites ça dans un bureau français. Alors, vous allez avoir celui qui n'aime pas ça, celui qui n'aime pas ça.
Ça se fait encore quand même, d'amener quelque chose, mais pas de donner vraiment dans l'assiette ou dans la bouche en Europe.
Alors, ça, c'est un geste de. Je ne saurais pas le dire en français, ce que les anglo-saxons appellent le care. Le soin, l'attention.
Oui, c'est l'idée de bichonner, de prendre soin de la personne.
Voilà. Donc, quelqu'un qui... Voilà.
Ouais, mais nous, vous voyez, on essaye, par exemple, que les enfants, ils soient autonomes pour manger très rapidement, en fait. Et après, on fait... Vous voyez plus même une mère donner la béquille à un ado. Enfin, ça ne viendrait pas à l'idée, quoi.
Non, alors, c'est pas forcément la béquille, on
pose... Ouais, mais même de mettre quelque chose en évidence sur son assiette.
En fait, c'est le bon morceau qu'on va poser dans le bol de la personne en face pour lui dire je te donne le bon morceau. C'est vraiment un geste d'affection.
Ouais, mais moi j'ai pas l'impression qu'on ait ça en Europe. En tout cas, je le vois pas. Enfin, peut-être je me trompe,
mais personne
je le vois
vous
pas.
Aime, c'est peut-être pour ça.
Ah, c'est pour ça. Heureusement que je vais chourer les trucs moi-même. Voilà, piquer des frites, oui, ça se fait. Mais quelqu'un, non.
Alors ça se fait, ça dépend à qui. Hein. Des fois, il y a certains, vous le faites qu'une fois. Hein. Après, vous avez plus de doigts pour le faire. Hein.
Allez, un petit encadré que j'ai gardé juste parce qu'il parle de Suzanne Valadon.
Ah, Suzanne Valadon, tout à fait.
Mise à nu. Fille de rien, née dans le Limousin, elle deviendra au tournant du siècle dernier l'inspiration des impressionnistes à Montmartre, modèle pour Renoir et pour Toulouse-Lautrec. Avant de s'émanciper par la peinture, ayant appris le dessin en autodidacte, elle sera l'une des premières femmes à peindre des nus. Eh bien, cette première rétrospective française depuis 1967, elle est disponible donc au Musée d'art de Nantes. Voilà, jusqu'au 11 février 2024, à partir du 27 octobre, vous pourrez aller découvrir donc une rétrospective sur Suzanne Valadon.
Une femme tout à fait admirable et hors norme, Suzanne Valadon.
Eh bien, c'est pour ça qu'elle est dans Cosette, alors.
Ah oui, alors là, vraiment, on est sur... une trajectoire menée avec une assurance, une, et puis du, une capacité de travail extraordinaire, parce que imaginez-vous que quand on était modèle, très jeune, hein, modèle pour des peintres, devenir soi-même peintre, ça veut dire qu'il fallait, il fallait en, enlever des barrières et des préjugés.
Et donc, je finis avec... Parce que du coup, comme je me suis dit, oh, c'est bizarre ce magazine, il y a plein de trucs à lire. Donc, je suis allé jeter un œil sur la couverture précédente. Et la couverture précédente, c'était Sophie Binet et Monique Pinson-Charlot. Alors, je me suis dit, ah bah, quand même, je vais aller jeter un œil à leur interview. Donc, Sophie Binet, c'est évidemment 41 ans, la nouvelle tête de la CGT, élue en mars. Donc,
Et vous avez raison d'utiliser le mot tête, en
oui,
effet.
Oui, oui. Et Monique Pinson-Charlot, 77 ans, sociologue, et elle avait beaucoup de travail sur la lutte des classes. Voilà. Donc, je suis allé voir un peu ce que racontaient ces deux femmes. Et donc, par exemple, on demande à Sophie Binet, bon, ben, comment ça se passe depuis qu'elle a été élue ? Eh bien, maintenant, les gens me reconnaissent dans la rue. Bon, mais j'ai des messages sympas, mais j'ai aussi quelques nouveaux problèmes, comme des menaces de fous et de fachos sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est super. Après, elle leur demande, alors vous verrez, pareil, l'interview est très très longue, comme quoi il y a encore des magazines où on se permet de dire aux gens, ben, vous allez lire 4-5 pages.
Et soyons donc, fous.
Ben oui, soyons fous, c'est du délire. Donc on leur demande, par exemple, comment trouvez-vous la force de lutter ? J'ai perdu son nom. Monique répond, ah ben moi j'ai la bagarre joyeuse, corrosive, j'adore ça, voilà. Et donc, à 77 ans, elle était dans les manifs des retraites, à essayer d'éviter les flashballs de la police. Donc bravo à elle. Et donc pour Sophie, ben, elle avoue que si elle ne lutte pas, elle tombe complètement dans la déprime. Et donc évidemment, elle a suivi notamment le combat de Verbaudet. On a cru longtemps que ça n'allait pas marcher. Et finalement, c'est une très belle victoire. Les camarades de Verbaudet, sont devenus des héroïnes de la lutte. Voilà, voilà. Alors, le lien au féminisme de ces deux femmes.
Oui, explicitez-le, mais je ne sais pas si...
Eh ben, vous
il
allez
existe,
voir.
Oui.
Oui, alors, je ne sais pas s'il nous reste assez de temps d'émission hein,
mais si
pour,
vous allez
pour
voir,
dire
parce
des
que
choses aussi évidentes. Mais bon.
Pour Monique, c'est pas si évident que ça, vous allez voir. Elle nous explique qu'elle a grandi en Lozère et qu'à l'époque...
Pauvre.
Non, mais vous allez voir, elle n'avait accès à aucun savoir, aucun musée, aucun cinéma.
Mais quel portrait de la Lozère, ça donne tellement envie d'y aller. Elle
et
est payée
donc,
par l'office de tourisme.
Et donc, elle raconte que jusqu'à 17 ans, elle pensait que tout ce qui lui arrivait était naturel. Il y avait des hommes, des femmes, et ce n'était pas le même statut. Mais son père est muté à Lille, et là, elle se retrouve avec une professeure de philosophie, une professeure, qui lui parle de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Hegel, et du rapport du maître et de l'esclave. Et là, nous dit-elle, j'ai compris que je pouvais avoir accès à une réflexion sur ma vie. Et du coup, elle s'est éveillée, nous dit-elle, sur le plan intellectuel, et que même si son statut de femme, elle ne l'a pas toujours mis en avant dans ses écrits, ni sur le plan personnel d'ailleurs, parce que elle, pour elle, ce qui a toujours primé dans ses écrits, dans ses études, c'est les inégalités de classe. Voilà. Mais évidemment, voilà, elle a quand même eu une libération, une épiphanie, voilà, à 17 ans. Alors, Sophie Binet, tout à fait autre chose, puisque leur mère était féministe, qu'elles sont trois frangines qui ont eu une éducation féministe. Et donc, elle explique qu'elle, ça a été parfois difficile parce que, par exemple, elle n'avait droit de porter que des t-shirts super larges au collège et que parfois, elle passait pour une extraterrestre.
Ah ouais, pas de crop top.
Non, pas de crop top, elle.
Pas de crop top chez les Binet.
Et qu'en plus, elle dit, je faisais partie d'une génération qui est celle du creux de la vague au début des années 2000. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait une loi pour la parité, par exemple. Pour moi, le féminisme, c'était le combat de ma mère, c'était le combat du passé. Et elle trouvait que c'était un truc de pleureuse.
Quand soudain, elle entre dans le monde adulte.
Exactement.
Et là, le drame.
Soudain, elle rentre à la CGT.
Maman,
et là,
t'avais raison.
Elle rencontre des camarades féministes qui lui ont un peu appris la vie.
Et surtout des camarades masculins.
Ouais, aussi, ouais, des camarades bien merguez. Hein.
Allez, je finis juste avec donc, le travail donc, de... Ah, purée, je vais avoir du mal à dire son nom. Hein.
Monique Pinson-Charlot.
Voilà. Et donc, évidemment, on l'interroge sur la démocratie aujourd'hui. Eh bien, la démocratie, nous dit-elle, devient de plus en plus incompatible avec la violence de la financiarisation du capitalisme qui touche aujourd'hui tous les secteurs, y compris ceux qui relèvent du bien commun comme l'eau, le gaz ou l'électricité. Et donc, pour elle, on ne devrait pas parler d'anthropocène, c'est-à-dire que ce sont les activités humaines qui bouleversent les écosystèmes et qui niquent tout, mais de capitalocène. Parce que pour elle, ce qui est vraiment responsable, c'est le capitalisme. Alors, sous couvert
ça
de...
Ça se discute.
Ben oui, mais vous en discuterez avec Monique, hein, y a pas de problème.
Alors, je suis d'accord avec elle à ceci près que le capitalisme est créé par l'homme, finalement.
Oui, mais peut-être elle pense que s'il y avait eu un autre système, on aurait pu être meilleur.
Certes, mais ça ne s'est pas passé. Ce que l'on sait des installations de l'homme là où il n'était pas présent, à des époques où le capitalisme n'était même pas une idée, c'est que quand même, partout où l'homme s'installe et prospère, il défonce tout. Hein, voilà.
Mais ça, comme n'importe quelle espèce invasive, Madame Henriette.
Oui, alors,
on
certes...
Fait, on ne fait pas mieux, pas moins mais... bien que les autres.
Mais la renouée du Japon, elle, elle n'a jamais inventé la bombe atomique.
Oui, mais attendez, laissez-lui le temps. Alors on finit avec, donc elle nous dit, Emmanuel Macron, qui était arrivé à se faire élire président de la République en 2017 sur le slogan « ni de droite, ni de gauche », avec plein de promesses d'aller de l'avant, de révolutionner le pays. Mais beaucoup d'électeurs n'avaient pas imaginé, nous dit-elle, une présidence aussi favorable aux plus riches et aussi régressive sur le plan démocratique.
Qui aurait pu prévoir ?
Allez Manu, t'es habillé pour l'hiver, effectivement tu pourras baisser le chauffage à l'Élysée et continuer à commander du plastique.
Ouah, il retombe sur ses pieds.
Ah, c'est beau,
magnifique,
c'est beau.
Magnifique.
Allez, je dis quand même bravo Cosette, parce que vraiment, non, j'étais étonné de
oui,
la qualité de ce magazine.
Oui, d'ailleurs, vous avez fait toute l'émission là-dessus.
N'est-ce pas, c'est beau.
On a lu Cosette avec vous.
C'est bien, non?
Oui, c'est chouette.
J'espère que je vous ai en donné envie de lire la presse féministe. Allez, Madame Henriette... Vous voulez passer de la musique ou on passe à Madame Ginette direct?
Comme vous voulez. Oh, on peut bien se passer 2 minutes avec Beyrouth et puis le titre à Twans, qui est peut-être moins connu que d'autres, mais qui est chouette aussi.
Allez, 2 minutes avec Beyrouth, c'est... Ouais, allez, très bien.
How do you know at once, at last, at all? How do you find at once, if all you find? How do you know at once, at last, at all? How will you find at once, at last?
Madame Ginette est toujours là, hein, j'ai vérifié. Elle sait pas...
Vous pouvez nous dire ce qu'on a écouté, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont arrivés pendant la musique, Madame Henriette.
Oh, si les gens font n'importe quoi. Hein. Bon, c'était Beyrouth et c'était At Once. Beyrouth, le groupe, At Once. Le titre.
Très bien. Et ben, Madame Ginette, dans Germain Nubalien, c'est à vous, avec vos énigmes.
Mais tout à fait. Alors, ma première énigme se passe à Almyros, en Grèce. Donc, vous savez que la Grèce, c'est un peu genre l'œil du cyclone du grand n'importe quoi climatique actuellement.
Oui,
donc,
oui. C'est...
Voilà, il y a eu des grosses, grosses, grosses tempêtes, etc.
La
etc.
Grèce, c'est chaud.
Après, les incendies, ils ont eu les incendies et la pluie, eux. Ils ont eu...
Oui, alors le problème, c'est que l'incendie aurait pu éteindre la pluie, mais il aurait fallu que ça s'arrête à un moment.
Ouais, c'était pas au même moment, c'était compliqué.
Oui, puis surtout, c'était trop.
Oui, trop en même
temps,
c'est vrai.
On va pas se mentir.
C'était le en même temps, là, qui faisait vraiment mal.
C'est ça. Et donc, ça touche les humains, les infrastructures, etc., mais ça touche également les animaux, je ne vous l'apprends pas. Et donc, des moutons ont, pour survivre, hein, c'est un énorme troupeau de moutons, pour survivre à Almyros, ont bagnaudé un petit peu partout et ont réussi à survivre en se nourrissant de ce qu'ils ont trouvé. Sauf que les gens les ont trouvés très, très, très étranges. Pourquoi ? Qu'ont-ils mangé ?
Les moutons, ils ont mangé des trucs ?
Est-ce qu'ils ont mangé des rhododendrons ?
Non.
Parce que les rhododendrons, ça peut, comment dire, et c'est connu depuis l'Antiquité d'ailleurs, les rhododendrons, ça peut être compliqué.
Hallucinogène.
Oui, oui, oui. Ça peut rendre un peu bizarre.
D'ailleurs, ça mais donne non. Quoi ?
Alors, c'est pas des rhododendrons.
Un mouton sous extra, ça donne quoi ?
Alors, l'extra, ça pousse pas sur les arbres. Hein. Ou alors, on m'a menti depuis longtemps. Mais vous êtes pas très loin, finalement.
Ah.
Donc, ça pousse dans les arbres.
Non.
Non, ça pousse.
Non, mais ils ont mangé un truc, peut-être qu'ils les ont rendus un peu...
Bah, des champignons hallucinogènes.
Non.
Ou ils ont trouvé un truc fermenté, ils étaient complètement bourrés.
Non. Vous allez chercher tellement loin des choses évidentes.
Bah, les moutons...
Ils sont tombés sur une plantation de cannabis ?
C'est ça, sur une plantation de CBD, de cannabis thérapeutique. Donc certes sans THC, mais enfin ça reste quand même du cannabis à l'état sauvage. Ils en ont mangé 270 kilos. Ils sautaient plus haut que les chèvres, fin de citation du berger qui les a retrouvés.
Ah, c'est pas mal, hein, parce que... on en a retrouvé des moutons sur les toits.
Donc le berger d'un coup a vu ses moutons. Alors bonne nouvelle, il les a trouvés en vie. Moins bonne nouvelle, il les a trouvés en train de sauter plus haut que les chèvres.
Et autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il va pas pouvoir vendre la viande, quoi.
Ah bah peut-être pas tout de suite, non, effectivement. Ah, ça y est, on a perdu.
Oh là là, j'ai mangé un gigot, je me sens bien.
Non mais c'est parce qu'en fait, moi je vois à peu près ce qu'est une chèvre, si vous voulez. Et donc, une chèvre qui voit plus cinglée qu'elle, je pense que ça doit complètement lui créer une espèce de vertige existentiel. Elles sont toutes en psychothérapie, là, les chèvres.
Une chèvre qui voit des moutons sauter plus haut qu'elle, quoi.
Ouais, ah bah, c'est harakiri tout de suite.
Puis faire des trucs beaucoup plus débiles et beaucoup plus cinglés. Enfin, c'est pas possible pour la chèvre. C'est une crise d'identité, quoi.
Mais même les moutons, je crois qu'ils ont vécu une crise d'identité aussi. Hein.
A priori.
Mais pas la même. Et ma deuxième énigme, nous nous téléportons en Floride.
Aux USA, donc.
C'est ça,
toujours,
le même.
Ça se détache petit à petit, mais pour l'instant, c'est quand même rattaché.
Ça reste encore un peu rattaché, mais vous savez, Hawaï est détaché par la mer. Ça arrivera à la Floride un jour. Une maman a pété les plombs sur ses enfants de 10 et 11 ans, qui, comme beaucoup d'enfants de 10 et 11 ans, ne travaillaient plus, refusaient les tâches ménagères, passaient leur temps dans leur téléphone et leurs écrans, et donc a confisqué leurs consoles et leurs portables. Les enfants ont décidé de se venger et qu'ont-ils fait pour se venger de leur maman ?
Ils l'ont ficelé, ils l'ont mis au congélateur.
Non, mais ça aurait été marrant.
Ils se sont mis au violon.
Vous êtes monstrueuse. Mais
oui,
non.
Oui, oui.
Ah ouais.
Pardon, violon et trompette.
Ils ont acheté l'intégrale de Britney Spears et ils l'ont passé en boucle.
Non, ils ont décidé de voler aussi quelque chose à leur mère comme
Un objet dont elle ne pourrait pas se passer.
Tout à fait.
Alexa. Et ils ont commandé plein de trucs.
Non. Ça aurait été drôle. Vous me donnez plein de bonnes idées.
10 et 11 ans ?
Oui.
Ils ont chouré sa voiture.
Exactement. Ils les ont retrouvés 350 km plus loin. Ils ont roulé pendant 3 heures.
C'est bien des Américains, ça.
C'est, alors, ça veut dire qu'ils étaient assez grands pour toucher les pédales quand même. Donc, ils ont quand même une croissance un peu précoce.
Ou que la mère était toute petite et que la voiture était réglée comme ça. Mais à Alachua, donc en Floride, ils ont retrouvé les gamins au bord d'une voiture. Enfin, c'est un shérif qui a vu passer une voiture avec un gamin au volant et une gamine sur le siège à côté. Donc, il s'est dit, tiens, c'est étrange. Donc, qui les a arrêtés.
Pas 16 ans, parce que c'est 16 ans quand même le permis là-bas. Donc.
C'est ça. Les gamins ont assez vite expliqué et ont assez vite donné leur adresse qui se trouvait à 350 km de là.
Comme quoi, ça roule bien. Hein.
Pas mal, on est d'accord.
Elle a failli réussir à s'en débarrasser.
Non, mais j'aurais quand même voulu voir la gueule du flic quand il a vu passer cette voiture.
Et la tête de la mère quand on lui a ramené les gosses, alors qu'elle, elle les avait mis à 350 km en disant « Vous direz que c'est vous qui avez conduit ?»
Ils sont en train de tourner « Maman, j'ai encore raté l'avion. Ouais. » Mon Dieu.
Et surtout, c'est hallucinant qu'ils aient pu rouler 350 km sans accident,
et
sans rien.
Et surtout, sans que personne réagisse et que tout le monde s'en foute.
C'est ça.
Oui, mais ça, c'est l'Amérique. Hein. J'ai envie de dire, ils en voient tellement que bon... Vous voyez,
mais enfin, en Floride, la moyenne d'âge, elle est de 250 ans.
À peu près.
Oui, bah justement, ils y voient plus rien, les mecs, donc ils voient pas que c'est des gamins
oui,
qui sont.
Oui, donc ils conduisent en n'y voyant plus rien, finalement, des gamins qui conduisent, c'est moins dangereux.
En plus, là-bas, c'est que déçu au vu trop teinté, donc vous voyez pas qui conduit. Il aurait pas dû ouvrir la vitre, le jeune, là. Il aurait fait 600 km comme ça.
Avec un peu de chance, il arrivait jusque. Oh, allez, Nouvelle-Orléans, c'était jouable.
S'il allait dans cette direction.
Bah après, il faut quand même aller quelque part vers la terre. Hein, parce que ça...
Oui, non, parce qu'au bout d'un moment, sinon, il allait être arrêté par une énorme étendue d'eau.
Voilà. C'est un peu le problème de la Floride.
C'est ça.
Bon, bah écoutez, ouais, bon, je pense qu'ils peut-être on en retendra pas râler de cette famille, hein, parce que tous les problèmes n'ont pas l'air réglés.
Bah visiblement, non.
Madame Henriette, de quoi vouliez-nous
Eh bien, moi, je vais vous parler de famille aussi.
Vous voyez.
Et je vais vous parler de la grande fête familiale en Corée. Et là, pour le coup, en Corée.
C'est-à-dire en même temps en Corée du Sud et en Corée du Nord ?
Exactement. Oh. Parce que c'est vraiment la fête traditionnelle. Alors, c'est Chuseok. Chuseok, c'est la fête des moissons, historiquement. Donc,
c'est un peu plus tôt, alors.
On repart sur le... Alors, c'est la fête des récoltes, en fait. Voilà. On repart sur le rapport à la nourriture. Hein, donc, c'était un moment de l'année où on était à peu près sûr de manger. Donc, c'était un peu la fête. Et c'est vraiment la grande fête familiale. Alors, c'est... Il y a un petit côté Toussaint, mais c'est beaucoup plus tôt, hein, puisque Chuseok, c'est le 15e jour du 8e mois lunaire. Ça tombe soit en septembre, soit en octobre, ça dépend des années. Cette année, ça tombe le 29 septembre. Et donc...
Et donc là-bas, ils avaient encore des récoltes à cette période de l'année, ou c'est juste...
Alors, c'est par exemple, l'un des emblèmes de Chuseok, c'est la pomme.
D'accord.
Donc,
ça colle comme nous, quoi. C'est à peu près la même période.
Il y a encore des récoltes, monsieur Edmond, en automne.
Oui,
donc,
oui.
Voilà.
Non, mais quand on pense moisson, tout ça, c'est,
donc,
c'est pas
c'est
la pomme.
Fête, oui, mais c'est, voilà, c'est la fête des récoltes, c'est la fête de la famille, puisque c'est le moment où tout le monde se réunit. Et c'est également la fête des ancêtres. Et donc, c'est aussi le moment où on va se recueillir sur la tombe de ses ancêtres et où également on fait ses repas rituels, où on cuisine toute la journée pour offrir des plats aux ancêtres. Et puis, au bout de quelques heures, eh ben, on se réunit et on les mange entre vivants. Voilà. Donc, c'est vraiment la fête de l'année. Et c'est l'un des rares moments où tous les Coréens peuvent prendre des congés. Alors, les Coréens n'ont pas 10 semaines de congés payés par an, hein, au risque de vous surprendre.
Ben
ils
un peu
en ont,
quand même.
Ils
hein.
en ont même assez peu. Et là, on est vraiment sur des jours fériés qui sont incontournables. On s'attend même d'un bourreau de travail à ce que pour Chuseok, ils lâchent tout et ils partent.
Et ça fonctionne ?
Alors, cette année, c'est exceptionnel parce que normalement, c'est 3 jours fériés. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Voilà. Donc, c'est 3 jours fériés. Le jour de Chuseok, la veille et le lendemain. En Corée du Sud, c'est comme ça. Et alors, cette année... un peu pour relancer la consommation et un peu pour remonter le moral des ménages, c'est 6 jours. C'est tout à fait exceptionnel. Voilà, donc 6 jours fériés.
Et donc c'est votre président de droite qui a fait ça ?
Alors c'est,
que vous décriez tant ?
C'est pas le mien. Ça l'est, oui, c'est lui. Voilà, c'est Monsieur Yoon. Et donc, l'idée aussi, c'est... donc pendant ces 6 jours, les Sud-Coréens vont énormément consommer. En tout cas, c'est ce qui est attendu. Donc, tous les prix sont... les prix, en tout cas, ce qui est considéré comme les 20 aliments de base, dont le chou, évidemment, hein, aliment de base, sont, on va dire, encadrés et surtout ultra-subventionnés. Et le gouvernement espère que les Coréens pourront avoir des rabais de 20 voire 30% sur ces produits considérés comme les produits emblématiques de, de cette fête-là. Vous avez également les gâteaux de riz qui sont le plat emblématique de de Chuseok. Voilà.
Et pourquoi ils seraient déprimés en Corée du Sud ? C'est quoi ? Ça va mal économiquement ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Alors, l'inflation a quand même bien plombé les classes moyennes et l'inflation sur la nourriture en particulier. Oui, non, ça
d'accord.
Ça va.
Donc, nous aussi, il faudrait qu'on fasse un Chuseok, alors. Il faut qu'on le propose.
On pourrait. Alors, un petit tour par la Corée du Nord, où là, ça va être beaucoup moins rigolo. Puisque c'est le premier Chuseok depuis le Covid où les Nord-Coréens vont pouvoir se déplacer.
Déplacer hors de Corée du Nord ?
Mais bien sûr, monsieur Edmond. Non, se déplacer à l'intérieur de la Corée du Nord.
Ah oui, parce que pendant le Covid, ils avaient interdiction d'aller rejoindre leur famille.
Ils n'ont même pas pu aller sur la tombe de leurs ancêtres. Je ne sais pas si
d'accord.
Vous vous rendez compte.
Oh là là.
C'est affreux. Alors eux, par contre, ils auront un seul jour férié. Et en plus, pour se déplacer, il faudra des laissez-passer, ce qui est une nouveauté, puisque avant la crise Covid, c'était l'un des rares moments où l'on pouvait se déplacer librement dans le pays.
D'accord, donc, parce que sinon, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ok, c'est sympa la Corée du Nord.
Oui, alors c'est un petit peu le principe d'un État totalitaire.
Bah, ça dépend, il y a des...
Quoi, on ne peut pas faire ce qu'on veut en Corée du Nord ? Je l'apprends.
Mais non, mais...
Merci, je m'ennuie bien.
Mais arrêtez de faire les malines, il y a des dictatures, vous pouvez vous déplacer à peu près librement, mais après il y a d'autres trucs qui sont interdits.
Il n'a pas dit dictature,
tant que vous ne sortez pas du pays.
État totalitaire.
Ah, totalitaire, ouais. C'est vrai qu'il est un peu spécial.
Non, mais monsieur Edmond, il n'y en a pas beaucoup des dictatures où on peut se déplacer librement, même à l'intérieur du pays.
Oui, déjà.
En Russie, par exemple.
Bon, écoutez, vous aurez découvert deux choses ce soir, le patriarcat... Et les États totalitaires, je ne sais pas si ça va vous aider à mieux dormir, mais c'était pas mal.
Je pense pas. Je dors très bien, Madame Henriette.
Eh ben, ça va. Vous allez voir. Ça, à partir de ce soir, ça va être beaucoup moins simple. Donc, voilà pour les Nord-Coréens qui eux, donc voilà.
Donc c'est tout. Ils font Chuseok une journée et eux, c'est pour l'inflation. Ils ont aussi des prix planchers.
Vous avez entendu parler du fait que la Corée du Nord n'était pas exactement un modèle de capitalisme et de consumérisme.
Ben, des fois, ils ont même pas. Ben, oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'ils font pour Chuseok?
Ils aimeraient bien consommer déjà.
Il n'y a rien à consommer. Les magasins sont toujours vides.
Mais c'est voilà. Donc là, c'est eux, c'est on va dire, c'est moins sympa quand même que les autres années. Revenons en Corée du Sud, donc, où Chuseok va être donc l'occasion de plein de choses. Alors déjà, ça va être l'occasion des plus gros embouteillages de l'année. Dans un pays de 50 millions d'habitants, on estime que 40 millions vont se déplacer.
C'est super.
Pour aller de Séoul, première ville du pays, à Busan, qui est au sud du pays. Alors je fais des gestes avec les mêmes, mais c'est pas très intéressant pour les auditeurs.
Non, mais ça me plaît, c'est très joli. Hein.
Il y a à peu près 420 km. On estime qu'à l'aller, donc Séoul-Pusan, il faudra un peu plus de 10 heures, entre 10 et 11 heures.
Ah oui, ça bouchonne sévère quand même.
420 km.
En fait, le bouchon, il commence à Séoul, il finit à Busan.
C'est l'idée. Oui, bah, si on a une place, oui, bien sûr. Et dans l'autre
le dernier
sens,
train.
Ça, le dernier train pour Busan, c'est pas celui qu'on recommande. Hein. C'est éviter. Et pour le retour, ça va être beaucoup mieux. Hein. Pour le retour, il faudra seulement entre 8 et 9 heures pour faire ces 400
km. Donc il y a 6 jours, mais il y a déjà 2 jours de cramé juste pour se déplacer.
Oui, alors c'est comme ça. C'est Chuseok, tout le monde se déplace à ce moment-là. Et donc, les gens ne font pas que se déplacer, donc ils consomment énormément de nourriture, mais ils consomment également de la culture, puisque Chuseok, c'est l'occasion de alors tout un tas de défilés traditionnels. Pour Chuseok, si on a un hanbok, c'est le costume traditionnel, on met son hanbok. Il y a tout un tas voilà, de fêtes autour de la tradition et de l'histoire coréenne. Les palais historiques de Séoul seront gratuits pendant la période de Chuseok. Et puis, c'est une période de particulièrement propice pour les films. Donc,
il y a des films qui sortent pour Chuseok pour faire le plein, c'est ça que vous voulez dire ?
Ben, on les sort juste avant et voilà.
Comme puis nous, il y avait le Disney pour Noël.
Puis là, 6 jours fériés, donc les 3 films
qui sont attendus pour le Chuseok
voilà,
2023.
Exactement. Donc, c'est celui qui a tout qui commence très bien, c'est Dr. Chon and Lost Talisman.
C'est Indiana Jones ?
Alors, ça risque d'être un peu plus rigolo parce qu'en fait, c'est.
C'est très rigolo, Indiana
Jones.
C'est
le premier assistant de Bong Joon-ho sur Parasite qui a fait ce film.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est Kim Song-sik, que je prononce extrêmement mal. Et donc là, c'est l'histoire d'un faux exorciste qui, manque de bol, va tomber sur un fantôme.
Oh, ils adorent ça. Alors, c'est bien coréen, ça.
Et donc là, forcément, ça va un petit peu l'embêter. Il y aura également, donc sort également pour Chuseok un film que moi j'espère pouvoir voir. On verra suivant la distribution. C'est Road to Boston. C'est le biopic. D'un marathonien qui a gagné, marathonien coréen, sud-coréen même, qui a gagné le marathon de Boston et qui était entraîné par le marathonien qui avait gagné les JO de 1936, ceux de Berlin. Hein, son entraîneur, c'était marathonien coréen qui donc avait refusé de saluer le drapeau japonais qui était son drapeau puisqu'en 1936 la Corée du Sud était une colonie du Japon.
Il aimait bien être mal
donc,
vulgaire quoi.
Là, gros background historique sur ce.
Et donc il y a pas une comédie
film.
Romantique qui sort pour le Chuseok.
Non.
Alors le troisième film c'est quoi ?
Alors l'autre c'est une espèce de mise en abîme, ça s'appelle Saturne à Séoul, Cobweb. Et donc c'est avec Song Kang-ho. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que Song Kang-ho, on l'a vu récemment dans Les Bonnes Étoiles ? À vérifier. J'ai mal préparé ça. C'est une mise en abîme d'un cinéaste qui veut absolument refaire la fin de son film parce que ça lui va pas, parce que voilà. Donc voilà.
À Séoul, donc.
Oui, ben manifestement vu le titre.
Bon. Ben écoutez, bon Chuseok, madame Henriette.
Bon voilà, ça vous donne des petites idées de choses à voir si vous comptez si vous êtes près d'un cinéma ou ouais, même je sais même pas d'ailleurs parce que je sais même pas comment ça va être distribué en France. Bon, si vous êtes à Séoul, voilà.
Voilà, c'est ça. Si vous parlez coréen,
voilà,
ce n'est pas forcément facile.
Vous irez les voir en VO non sous-titré, ça vous fera les pieds.
Bon, bah écoutez, je sais pas, Madame Ginette, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer de plus simple à aller voir, puisque Monsieur Kogan n'est pas là ? Je vous prends un peu au débotté, mais on ne sait jamais.
Oui, un petit peu, oui, pour tout ce qui est ciné, moi je suis
non,
pas...
Non, mais ciné ou série, hein, si vous avez vu un truc en ce moment qu'il ne faut pas rater, n'hésitez pas.
Non,
moi, je ne saurais trop quoi dire.
Non.
Elle a vu que des trucs dispensables ces derniers temps.
Madame Henriette, oui, vous nous proposez quelque chose ?
Alors moi, je vous propose une série coréenne qui est très, 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 très compliquée parce que c'est à la fois une histoire de voyage dans le temps et une histoire de voyage d'un corps à l'autre.
Mais il va falloir résumer vite, hein, il vous reste une minute.
Et ben c'est A Time Called You. C'est sur Netflix, c'est super joli, c'est très bien tourné. Faut s'accrocher, faut pas regarder ça à 2h du matin quand on dort à moitié parce que c'est quand même relativement complexe. Et je le conseille particulièrement à Madame Ginette. Je suis sûre qu'elle va beaucoup aimer. Et puis on revit.
Je sais pas, Madame Ginette, vous aimez la mécanique quantique ou pas ?
Une partie. Une partie se déroule dans un magasin de disques à la fin des années 90 en Corée, avec donc derrière les affiches de Kurt Cobain, qui était déjà mort à l'époque, fin des années 90. Voilà, donc c'est toute une époque, c'est l'époque où on s'offrait des cassettes et des CD. Il y a ce petit morceau qui est sympa et plein d'autres aussi. C'est
non, mais comme
une
vous
série
êtes...
que je conseille.
Mais vous êtes fourbe, Madame Henriette, de dire Kurt Cobain alors que la bande son, c'est pas du tout ça, c'est que de la variétoche coréenne.
En effet,
c'est fourbe, ça.
Moi qui note les détails dans les décors, je peux vous dire que j'ai trouvé ça très bien fait.
Très bien. Allez, on n'avait pas Monsieur Kogan, donc écoutez, vous avez une série cohérente à regarder, proposée par Madame Henriette. Et il est l'heure de se quitter. Madame Ginette, c'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Mais tout à fait.
Et puis Madame Henriette aussi. Hein.
Oui, je vous remercie. Bon, je me suis dit, je vais passer à l'as.
Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.